Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Emma et aujourd'hui je suis accompagnée de mon amie Ava. Aujourd'hui nous allons parler de la banane et de quelques fun facts dessus. La banane vient de l'Asie du Sud et plus précisément de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Est-ce que vous savez que la banane partage environ 60% de l'ADN humain ? Mais c'est pas tout, est-ce que vous savez aussi que les bananiers peuvent atteindre jusqu'à 7 mètres de haut ? Ce qui la fait la plus grande plante du monde. C'est pas incroyable ?
Chers amis, il faut aussi savoir à quel moment de la journée on en mange. Il est préférable d'en manger une au petit déjeuner, pour faire le plein d'énergie, mais aussi au dessert lors du dîner, à l'heure du goûter ou encore en guise de petit encas. Pour info les amis, est-ce que vous savez que nous consommons environ 135 millions de tonnes de bananes par an, ce qui a été estimé de 1000 milliards de bananes cultivées dans le monde entier ?
Mais c'est pas tout ! Est-ce que vous savez qu'il y existe plusieurs variétés de bananes ? Il y en a de toutes les couleurs, des rouges, des bleus, des vertes. Voici une espèce de banane qui s'appelle la Blue Java, qui vient des Philippines. Étrangement, cette banane a un goût de glace à la vanille, ce qui la fait très goûteuse et appréciée chez nous.
La Cavendish est une banane verte qui vient du Vietnam et de la Chine. Mais il y a aussi la Goldfinger qui vient du Honduras. C'est la plus sucrée et savoureuse de toutes les bananes au monde. Elle a aussi un petit goût de fraises et de pommes. Il existe aussi des petites bananes et elles s'appellent les fracinettes. Merci de nous avoir écoutés, au revoir et on se retrouvera sur une autre émission radio et pour une prochaine émission, on parlera de la pomme.
À bientôt, merci beaucoup.
Oula.
Nous vous présentons notre magazine sur la cuisine vietnamienne et nos recettes préférées. Je suis en direct avec mon commis de cuisine.
Alors, pour faire une soupe pho,
il faut de l'anis étoilé, un clou de griffole, un bâton de cannelle, des gousses de cardamome, des graines de coriandre, du bouillon de viande et des nouilles assez chaudes pour cuire la viande. Et quand c'est bien cuit, c'est trop bon. Et maintenant, tu vas nous présenter la recette des nems, Léon.
Oui, tout à fait, l'échec. Tu le sais, les nems sont un plat très populaire au Vietnam. Voici notre recette pour 16 nems. Il faut 16 galettes de riz moyenne, 500 g de viande de porc haché, 500 g de champignons noirs déshydratés, 1 oignon, 2 carottes, 60 g de vermicelle de riz, 2 cuillères à soupe de sauce Nukman, du sel, du poivre.
Et pour la sauce Nukman que j'adore ?
Là, c'est très simple. Il faut 3 doses d'eau, 1 dose de sucre, 1 jus de citron, une ail émincée.
D'où viennent ces plats ?
Le pho est avant tout un plat populaire né dans les rues du nord du Vietnam au début du 10e siècle. C'est la street food par excellence. Service dès l'aube sur les trottoirs dans un grand bol. Les nems proviennent plus particulièrement du nord du Vietnam, où ils sont apparus en 1740. Et c'est toujours pas fini. Le Vietnam est le plus grand exportateur mondial de noix de cajou, ce qui équivaut à 352 000 tonnes vendues pour 3,52 milliards de dollars en un an. On se retrouve dans le prochain épisode.
Je remercie mon commis de cuisine.
À la prochaine fois!
Bonjour, je suis Léana.
Et moi Inès.
Nous allons vous présenter la cuisine de nos pays.
Nous allons commencer par l'Algérie.
Qu'est-ce qu'on mange en Algérie, Inès?
On mange du couscous. Le couscous vient d'Afrique du Nord et fait partie du patrimoine culinaire commun à l'Algérie. Mais Léana, que mange-t-on en Espagne?
Les churros espagnols sont une spécialité très populaire, surtout au petit déjeuner.
Comment on les mange?
En Espagne, les churros sont souvent servis avec du chocolat très épais.
Qu'est-ce qu'on boit dans les deux pays? Le thé en Algérie est avant tout un symbole d'hospitalité et de convivialité. Le plus emblématique est le thé à la menthe.
En Espagne, le thé n'est pas la boisson principale, mais il existe quand même une culture de thé plus discrète qu'en Algérie.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés
et à bientôt.
Virelangue, est-ce que vous arrivez à répéter après nous?
Pataqué et patatras, pas de panique pour Petrus.
Allez, c'est parti.
Non,
Pataqué et patatras, pas de panique pour Petrus.
Pataterie et patatras.
Patatrie, patatra.
Pas de pâté pour pétrir.
Patatrie, patatra. Pas de panique pour. Pour pétrir.
Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Oula.
Un chasseur, ça chante. Chasser doit savoir chasser sans son chien.
Un sacheur, ça sent. Sacher, je sais pas, madame. Un chasseur, ça sent. Ça chante. Ça chasser doit savoir chasser sans son chien.
Bravo, à toi.
Un chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien.
Faut dire sa chasse.
Un chasseur sans son chien doit savoir sacher sans son chien.
Un chien et son maître.
Attends, c'est où? On essaye.
C'est où?
Un chasseur.
Un chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien.
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Brawl Stars.
Brawl Stars est un jeu vidéo de stratégie et de tir en arrêt, type MOBA et Battle Royale, en free-to-play. Brawl Stars a été créé le 15 juin 2017 sur iOS uniquement au Canada, puis en juin 2018 sur Android. Il a été développé et édité par le studio finlandais Supercell.
Le but de Brawl Stars est de remporter des parties pour gagner des trophées. On peut débloquer des personnages appelés brawlers en gagnant une monnaie appelée crédit ou en les gagnant dans des prix stars, des méga boîtes, prix stars ange ou démon, etc. Il y a la voie des trophées où l'on gagne des récompenses quand on atteint un certain nombre de trophées.
Il y a plusieurs modes de jeu. Le survivant. Le but est d'être la dernière équipe en jeu. Le Razia Gem, le but est de récupérer au moins 10 gemmes et de tenir 15 secondes avec ces gemmes. Le Brawl Ball, le but est de marquer 2 buts sans en prendre 2. Le hors-jeu, le but est de gagner des manches en éliminant les 3 adversaires.
Chaque premier jeudi des mois, il y a une nouvelle saison. Il y a des nouveaux skins et des modes de jeu. Un nouveau Brawl Pass, c'est-à-dire un pass où il y a 60 paliers. À chaque palier, on gagne une récompense. Chaque mois, il y a un nouveau brawler qui arrive dans le jeu.
Il y a des clubs qui peuvent être composés de maximum 30 personnes. Chaque mois, il y a un événement qui s'appelle la Méga Tirelire. On peut participer à la Méga Tirelire que si on est dans un club. Pour jouer à cet événement, on a un certain nombre de tickets. Plus on gagne de parties, plus on gagne de récompenses. Quand on veut jouer, le mode de jeu est aléatoire.
Il y a une boutique. Chaque jour, il y a des nouvelles offres qu'on peut acheter avec des gemmes ou des blings. Les blings et les gemmes sont des monnaies pour acheter des choses. Il y a aussi les pièces et les points de pouvoir qui servent à améliorer vos brawlers et acheter des buffies. Merci de votre écoute, à bientôt.
Salut, à bientôt.
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans notre émission avec Inia et Adèle.
Inia va vous présenter Spy Family ainsi que One Piece. Je vais vous présenter Instinct et Naruto. Sur ce, voici Spy Family par notre invité, Inia. Bonjour Inia, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu l'histoire de Spy Family? Qui est le protagoniste de cette histoire? Et où se passe cette histoire?
Bien sûr, l'histoire se déroule au Japon. Et notre protagoniste est Lloyd, un espion mieux connu sous le nom de Twilight. Un agent secret chargé de faire une mission secrète.
Quelle est cette mission secrète? Tout ce monde d'espions, ça a l'air super.
Son mission secrète est de fonder une famille afin de surveiller une personne dangereuse.
Ah, mais avec qui fonde-t-il cette famille? Puisque dans une mission, il ne doit pas y avoir un temps illimité.
Il adopte donc Anya, qui a le pouvoir de lire dans les pensées. Il l'adopte sans savoir ses pouvoirs pour fonder une famille avec Yor, qui est une tueuse à gages. Yor et Lloyd ne connaissent pas leur identité secrète entre elles. Il n'y a que Anya qui connaît l'identité secrète de ses parents.
Super, est-ce que s'il te plaît maintenant tu pourrais nous parler de One Piece? Qui est l'auteur de la série et combien de tomes compte-t-elle?
Bien sûr, la série est dessinée et écrite par Eiichiro Oda et compte au alentour de 112 tomes. La série n'est pas achevée mais l'auteur a décidé de s'arrêter au alentour de 150 tomes.
Peux-tu nous dire un peu plus de l'histoire de ce manga qui a l'air super?
One Piece est raconté par Luffy, un jeune garçon de 17 ans qui décide de prendre la mer pour devenir pirate. Il veut trouver le One Piece, qui le autoproclame roi des pirates. Donc, pendant son voyage, il fonde un équipage.
Merci Inya, et maintenant j'aimerais vous présenter Instinct. Instinct est l'histoire d'un jeune garçon, Aki, qui est atteint d'une maladie incurable, le noctus. Cette maladie se présente sous forme d'une tache qui, en 9 mois, s'élargit et provoque ainsi un arrêt cardiaque. Aki rencontre Luna, qui lui dit qu'elle peut le soigner. Aki va dans le monde de Luna, un monde pour les malades atteints du noctus, et part à la recherche d'un médicament qui pourra le sauver.
Merci. Et maintenant, tu vas nous présenter Naruto.
Naruto est un jeune garçon adepte de Nui, qui rêve de devenir Hokage, ce qui est le chef ninja de son village. Afin d'y arriver, il doit devenir un ninja d'exception. Naruto est le réceptacle d'un démon renard qui a autrefois ravagé le village. Le seul problème, c'est que Naruto est un cancre. Il redouble son évaluation de ninja des années durant. Quand il y arrive, il forme une équipe avec Sasuke, un jeune garçon mystérieux, et Sakura. Le manga raconte un peu toute l'histoire de Naruto qui va poursuivre son apprentissage de ninja après avoir enfin réussi son évaluation.
Ok, merci de nous avoir écoutés sur notre émission.
Pour plus d'informations, regardez notre article dans le journal scolaire.
Merci.
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans notre émission sur Taylor Swift, la plus grande chanteuse pop. Je me présente, je m'appelle Amy et je suis avec Emily. Mais d'abord, qui est Taylor Swift ?
Taylor Swift est une chanteuse pop qui a connu beaucoup de succès dans ces dernières années. On est ici pour vous parler d'elle. Comme c'est une chanteuse populaire, elle a forcément gagné des prix. Tu peux nous parler de ses prix ?
Elle a gagné 14 Grammy, un prix très prestigieux dans la musique américaine, et 30 VMAs. C'est la plus jeune artiste au monde à avoir été introduite dans The Wall of Fame. Mais comment est-elle devenue populaire ?
Quand elle était plus jeune, Taylor Swift a fait la première partie de plusieurs concerts. Quelques années plus tard, elle a connu beaucoup de succès avec son album country qu'elle a appelé par son propre nom, Taylor Swift. C'est plusieurs années après ça qu'elle sort son album 1989 et commence à être une chanteuse pop. Je pense que les auditeurs voudront en savoir plus sur sa vie. Est-ce que, Amy, tu pourrais nous la raconter ?
Alors, Taylor Swift adore ses fans. Elle est très gentille envers ses fans et ne dira jamais non pour une photo si elle a le temps. Taylor Swift a trois choix, Meredith, Olivia et Benjamin. Travis Kelce est le petit copain de Taylor Swift et vont se marier. Il est tombé amoureux sur Taylor Swift et donc allé la voir en concert, dans sa tournée The Eras Tour. Il lui a fait un friendship bracelet à Taylor Swift avec son numéro de téléphone. En parlant de ça, Emily, tu pourrais nous parler plus sur la tournée The Eras Tour ?
Taylor Swift a commencé en 2023 la tournée la plus attendue de la musique pop, le Eras Tour. Et elle s'est finie en 2024 à Vancouver. Comme chaque bon artiste, Taylor Swift a des moments iconiques. À ses concerts, par exemple, A Cruel Summer, Love Story, Shake It Off, Don't Blame Me, Anti-Hero et 22. Plusieurs de ses chansons ont fait partie des albums qui ont été volés. Amy, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ces albums volés ?
Bien sûr, Taylor Swift s'est fait voler ses 5 premiers albums par son label, puis les a récupérés grâce au Eras Tour. Aujourd'hui, Taylor Swift détient toute sa musique depuis le début de sa carrière. Emily, peux-tu nous dire sur ses albums et ses chansons les plus connues ?
Ok, pour finir, son album 1989 a eu 14 millions d'albums vendus. Et Cruel Summer est sa chanson la plus écoutée sur Spotify.
Merci d'avoir écouté.
Auditeur, je me présente, je suis Milena.
Bonjour, et moi c'est Saruna.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de ces animaux, les pandarous, car ils sont trop mignons. Saruna, savais-tu que les pandarous pesaient entre 50 et 65 kilos?
Non, c'est vrai, je savais pas, et toi tu savais?
Non, mais je viens de le savoir grâce à un documentaire sur les pandarous que je viens de regarder.
Milena, tu savais aussi que les pandarous avaient des taches blanches?
Oui, c'est naturel chez eux.
Avant, je croyais que les pandarous n'étaient qu'en Chine. Mais en réalité, ils sont en Chine, dans le sud-ouest, et à l'Himalaya, dans les forêts avec beaucoup de bambous.
Les pandarous ne sont pas dangereux, mais ils peuvent être agressifs.
Lorsqu'un pandarou se dresse sur ses pattes arrière, élève les pattes, il adopte une attitude défensive et peuvent attaquer et menacer avec ses griffes et ses dents. C'est tout pour aujourd'hui sur les pandarous et à très bientôt pour un nouveau podcast animalier.
Merci de nous avoir écoutés.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous allons vous parler des Maine Coon avec notre présentatrice MB et notre envoyé spécial Arthur. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un Maine Coon ? Pour répondre à cette question, nous allons rejoindre notre envoyé Arthur pour qu'il nous en dise plus sur ce sujet.
Bonjour tout le monde, ici ça va bien, l'ambiance est au poil. Alors maintenant, passons à ce qui nous intéresse vraiment. Pour commencer, le Maine Coon est un chat de grande taille à poils mi-longs. C'est un mélange entre deux races de chats, le chat angora turc, le chat sauvage du Maine. Il est d'origine du nord-est des États-Unis où les hivers sont longs et rudes. De ce fait, il possède un poil imperméable et épais et un sous-poil épais également.
Merci Arthur. Maintenant, nous allons vous rejoindre sur place pour que vous nous racontiez plus sur leur apparence et leur poids. Nous revoilà. Alors, maintenant, nous allons vous poser des questions sur leur apparence et leur poids. Donc, pouvez-vous nous décrire leur apparence ?
Avec plaisir. Leur apparence est d'avoir la tête plus longue que large, ce qui est inhabituel pour un chat. Leur museau est carré et leur menton est dur. Leurs pommettes sont proéminentes et leur queue est en swiffer.
Merci beaucoup, Arthur. Pouvez-vous maintenant nous en dire plus sur leur poids ?
Bien sûr, Manon. C'est très simple. Leur poids sont entre 8 et 10 kg pour les mâles et 5 et 7 kg pour les femelles.
Parlez-nous maintenant de leur état d'esprit en tant que Maine Coon.
Alors, pour leur état d'esprit et leur caractère, le mâle castré sera plutôt doux et plus affectueux. Il n'aura pas plus de marquage. Il sera plus grand et donc il pèsera plus lourd.
Parfait. Et les femelles stérilisées ?
Les femelles stérilisées, elles seront donc plus agressives et elles grogneront plus. Elles n'auront aussi pas de marquage et pas de règles ou de chaleur.
Apparemment, le Maine Coon est aussi appelé le chat-chien, car il nous suit partout comme un chien. Est-ce vrai ?
Oui, ceci est vrai, mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi car ce chat est très très grand qu'on le compare à un chien.
Oh mais bien sûr, quelle tête en l'air je fais. Sur ce, il est l'heure de vous quitter. Alors au revoir et n'oubliez pas de nous contacter, Arthur et Manon.
Ciao !
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre émission Sport Actu.
Je m'appelle Rose et je suis ici en compagnie de Nicolas.
Bonjour Rose.
Aujourd'hui nous allons parler évidemment de sport, mais plus précisément de football. L'équipe de Toulouse, le TFC.
Oui, mais le TFC n'est pas très impressionnant. Entre les défaites, les nuls et quelques victoires, il ne peut qu'assurer le maintien.
Quoi ? Mais pourtant, le TFC a gagné la Coupe de France en 2022-2023 et après en Ligue Europa, il gagne contre le Liverpool 3-2. Mais quelles sont les raisons de cette baisse de niveau et quelles sont les espérances ?
Je vais tout expliquer dans un instant. Première raison, le départ de joueurs importants. Peu après la Coupe de France, en fin de saison, le TFC est marqué par le départ de joueurs importants. Plusieurs raisons sont évoquées. Certains ont été vendus, d'autres étaient en fin de contrat, partis librement. Tous ces départs de joueurs importants ont modifié l'équipe, ce qui est tout à fait normal. Mais cela reste marquant.
Oui, je m'en souviens. Mais y a-t-il d'autres raisons ?
Oui, deux autres et voici la deuxième. C'est à cause du budget du club, du TFC. Il n'a pas un budget aussi important que le plus gros club comme le PSG, ce qui limite les joueurs qu'ils peuvent acheter. Du coup, après ses départs, le TFC devait gérer les pertes de joueurs en les remplaçant. Le TFC a acheté et reçu de nouveaux joueurs, pas forcément au même niveau ou même moins forts. Mais le TFC a un très bon centre de formation, parmi les meilleurs de France, donc beaucoup de bons joueurs sont formés au club. Par exemple, leur gardien, Guillaume Rest.
Oui, tu as raison. Effectivement, beaucoup de joueurs sortent de leur centre de formation.
Et la troisième raison, je pense que tu la connais.
Oui, bien sûr que je la connais. C'est le changement d'entraîneur. À la fin de la saison 2022-2023, Philippe Montagnier est remplacé par Carles Martinez Novel, qui est l'entraîneur actuel, donc qui n'a pas forcément les mêmes tactiques de jeu que l'ancien.
Voire même les mêmes styles de jeu.
Oui, tu as raison.
À l'heure où nous vous parlons, nous savons que le départ de Carles Martinez Novel est confirmé.
Ah bon ? Espoir ?
Oui, peut-être bien ce serait une forme d'espoir. Vous en saurez plus dans notre prochaine émission.
À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. C'était Sport Actu.
Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Sofiane. Je vais vous présenter l'équipe de foot du Maroc avec mes camarades Oumoud et Aboubakar.
Bonjour. Bonjour.
L'équipe du Maroc en 2026, c'est la meilleure équipe d'Afrique et cinquième mondiale. Ils ont fini premier à la Coupe d'Afrique des Nations devant le Sénégal. Ils ont eu l'une des meilleures équipes du monde en 2022. Ils sont arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde en battant l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Canada et une égalité face à la Croatie. Ils ont en plus l'un des meilleurs attaquants du Real Madrid et le meilleur latéral droit au monde, Achraf Hakimi, qui joue au PSG. Aboubakar, peux-tu me parler du palmarès du Maroc ?
Ah oui, avec plaisir. Ils ont eu deux Coupes d'Afrique des Nations, en 2026 et une en 1976. Une Coupe du Monde U20, ils ont eu deux Coupes d'Arabe, la Coupe d'Afrique U17, puis ils ont gagné la CAN et ils ont gagné la médaille de bronze.
Maintenant, mes camarades Oumoud, Aboubakar et Lokman vont vous présenter le parcours du Maroc en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde.
C'est la meilleure équipe d'Afrique. A ses pris 5 buts dans tout le tournoi. À la Coupe du Monde, ils ont pris un but en Coupe d'Afrique des Nations sur pénalty face au Mali, où ils ont fait une égalité. Ils ont fini premier de leur poule devant le Mali.
Ils vont jouer les phases élimination. Ils gagnent sur le score de 1-0 face à la Tanzanie. Puis en quart de finale, ils tombent face au Cameroun. Ils gagnent sur le score de 2-0.
Ils sont maintenant qualifiés en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils jouent contre le Nigeria. Le score est de 0-0. Les pénaltys vont se jouer. Le Maroc rate un pénalty en premier. Tout le monde croyait qu'ils allaient perdre au tir au but. Mais Yacine Bono, comme en 2022, vient arrêter deux pénaltys et le Maroc va jouer la finale face au Sénégal où...
Ils vont perdre 1-0. Certains disent que le Sénégal ne mérite pas car au moment de tirer le pénalty, tous les joueurs sénégalais ont quitté le terrain et dans les règles du 82 et 84, ils ont quitté le terrain sous l'accord de l'arbitre. L'équipe adverse gagne sur tapis vert par forfait sur le score de 3-0.
Merci d'avoir écouté notre émission et à bientôt pour une autre rubrique de foot.
Au revoir les amis.
Au revoir.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, moi c'est Finlay et je suis ici avec mon ami.
Et aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle ère de Formule 1 qui est en 2026. Mais Simon, tout d'abord, c'est quoi la Formule 1?
La Formule 1 est un sport où des pilotes surentraînés filent à 300 km/h dans des voitures à quelques centimètres du sol.
Pour commencer cette nouvelle ère, les écuries Red Bull et Racing Bulls se sont mises en route pour la première place en dévoilant leur nouvelle livrée le plus tôt possible, dans un événement avec Ford au Michigan.
En accompagnant les nouvelles livrées, les nouvelles règles arrivent-elles aussi?
Oui, les nouvelles règles arrivent. Les voitures sont maintenant 50% électriques. Elles sont aussi plus petites et plus légères, ce qui devrait améliorer la qualité et la rapidité des grands prix, qui est ce qu'on appelle les courses.
Effectivement, l'aérodynamique active aura également un grand rôle sur certaines lignes droites. Les pilotes pourront réduire leur vitesse dans les virages. Cela augmentera le contrôle sur la monoplace qui est la voiture.
Dans la première course de la nouvelle ère, se situant en Australie, George Russell, le favori de la saison, gagne à l'âge de 28 ans.
Voilà chers auditeurs, c'était tout pour aujourd'hui. Revenez nous écouter plus tard dans la semaine.
À la prochaine et n'oublie pas de nous écouter plus souvent. Merci beaucoup.
ces chroniques radio ont été enregistrées dans le cadre d'un atelier d'éducation aux médias Podcast Club, animé par Alexandra Josse pour Médias communs Occitanie, dans le cadre d'un parcours laïque et citoyen soutenu par le Conseil départemental de la Haute-Garonne en 2026. Il est placé sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.